Ce matin, c'est David Porter qui nous apporte le message. Bienvenue David, merci de ta disponibilité aussi. Je crois que la plupart d'entre nous connaissent David. Ils sont dans la région depuis 5 ans. David est prof de musique, un prof de musique chrétien. Ça ne court pas les rues, c'est bon à savoir. Voilà, je te laisse la place. Que Dieu te bénisse, David.
Merci beaucoup, Philippe, pour l'accueil. Muito obrigado por esse trabalho. C'est intéressant qu'un jour comme la Pentecôte, qu'il y a deux non-francophones qui sont devant dans l'église. Je suis irlandais d'origine, donc on a habité là jusqu'il y a 5 ans. On avait quand même une partie de notre vie en région parisienne il y a 15 ans, où j'ai fait des études à la fac de théologie. Et on était dans une église avec un certain John Winston. Et j'ai vu récemment, en parcourant des feuilles que je voulais mettre à la poubelle, un ordre donc de mon baptême, du service de mon baptême. Et j'ai vu que John avait prié au début. Je dis, ah bah tiens, le monde est petit. J'avais oublié ça. Donc je le remercie, même s'il n'est pas là. Je ne sais pas s'il m'a invité spécialement pour un jour où il serait absent. Mais... Je le remercie pour cette invitation. Je suis rendu compte qu'on a plusieurs liens aussi avec vous. Avant de partir en France, la première fois, en 94, on avait un certain couple, Brian et Ellen Tadford, chez nous un jour, parce qu'ils étaient à côté pour une réunion missionnaire. Et on avait entendu parler d'eux et on les avait invités à la maison. Donc voilà. Je vous remercie aussi parce que pendant plusieurs années, jusqu'à l'année dernière, je donnais des cours de piano et de chant dans cette salle pendant la semaine. Il y avait beaucoup de personnes qui aussi fréquentaient pas du tout une église, qui au début regardaient un petit peu ce qu'ils avaient le droit d'entrer, et puis ils ont laissé l'enfant venir, et puis après les parents sont venus aussi. Et puis je me souviens de plusieurs enfants surtout qui lisaient le texte qui était là en attendant leur tour pour être au piano, et donc je vous remercie aussi pour cette possibilité que vous m'avez accordée pendant plusieurs années. Nous allons lire ensemble donc le récit de cette histoire dont nous avons déjà entendu parler un petit peu ce matin grâce à tout ce que nous avait dit Lydia. Ça se trouve dans les Actes des Apôtres, donc juste après les Évangiles. Ce qui s'est passé cette première journée de la Pentecôte. Juste avant de le lire, peut-être, j'aimerais vous poser la question. Si vous devriez décrire ce que c'était Noël pour vous la première fois que vous, l'avez célébré ou la première fois que les premières pensées qui viennent à l'esprit, pourquoi vous vous souvenez d'un certains Noël plus qu'un autre? Est-ce que quelqu'un vous a donné un cadeau? Et si c'était l'Église, c'était peut-être la première fois que vous avez dû être un berger, vous savez, avec la serviette sur la tête, etc. Qu'est-ce que vous retenez d'une célébration de Noël? Peut-être plus en tant qu'enfant, parce que c'était les cadeaux qui étaient les plus importants à ce moment-là. Ou à l'Église. Et Pâques? La Pâques? Est-ce que vous gardez des souvenirs de la première Pâque à l'église ou là? Ou peut-être là, si vous êtes converti en tant qu'adulte, vous êtes venu à l'église la première fois, c'était quoi Pâque pour vous la première fois? Et pourquoi est-ce que vous gardez un tel souvenir? Est-ce que quelqu'un vous a demandé de faire quelque chose ou quelqu'un vous a montré un tableau et ça est bien resté à l'esprit? Parce que souvent des choses qui sont visuelles restent plus à l'esprit que... Une prédication, par exemple, ou un chant va revenir mercredi alors que vous allez avoir malheureusement oublié beaucoup de ce qui est dans le message parlé. Et la Pentecôte. Demain, c'est un jour de congé, c'est ce que nous a dit Lydia. Donc il y a beaucoup de Français qui sont très heureux pour la Pentecôte. Mais ils n'ont aucune idée de ce que ça représente. Ils sont très contents parce que pour le mois de mai et puis aussi un petit peu en juin, Ben, ils sont très heureux d'avoir un passé chrétien quelque part dans le pays, parce qu'ils ont plus de jours de congé. C'est vrai que même pour nous en tant que chrétiens, peut-être c'est la fête des mères, ou le nouvel an, ou la rentrée, qui nous occupe beaucoup plus que l'ascension ou la Pentecôte. Lisons ensemble dans Actes 2. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. » Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison. Ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils disaient, « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle. » Vous imaginez si c'était aujourd'hui à Genève. On m'a dit une fois, il y a 174 nationalités différentes à Genève. Je vais passer rapidement au verset 11. Donc, il cite tous les endroits d'où ils viennent. « Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Verset 12. « Ils n'en revenaient pas. » Plongés dans la plus grande perplexité, se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva, entouré des onze, et d'une voix forte, il dit à la foule « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre, des signes prodigieux, sang, feu, colonne de fumée. Et le soleil s'obscurcira. La lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Écoutez-moi, Israélites. Ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant par son moyen, au milieu de vous, des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. » Ensuite, il va citer David, puis je vais lire plus loin, je vais reprendre au verset 32. « Dieu a ressuscité des morts, ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint. Il a répandu sur nous. » C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir. Avec une entière certitude, Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Ensuite, les gens stupéfiés lui posent la question, ce qu'ils devraient faire. Pierre dit, « Changez, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager en leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Voilà quelque chose à célébrer et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on peut célébrer cet événement de la Pentecôte aussi aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, on est souvent pris par le calendrier civique, la rentrée, la fête des mères, et au cas où vous allez oublier, chère dame, dans une semaine, il y a un autre événement, le 15. Vous devez peut-être le marquer, c'est la fête des pères. Un calendrier hébreu commençait le nouvel an avec la Pâque. La Pâque était célébrée au moment de la moisson de l'orge du printemps, car l'Exode a eu lieu, selon la tradition, à ce moment-là. Pour le peuple d'Israël, eux, ils avaient un calendrier aussi, mais c'est un calendrier religieux en parallèle avec le calendrier agricole. Et le but de ce calendrier religieux était de rejouer l'histoire rédemptrice, c'est-à-dire de se souvenir de comment Dieu était intervenu dans leur vie en tant que peuple d'Israël, par les saisons festives spéciales du calendrier liturgique. Ce calendrier aidait à instaurer et à affirmer la foi de la communauté. Nous pouvons aussi, dans notre vie d'église, vivre le calendrier, ou on pourrait dire de notre façon, marcher avec Jésus pendant toute l'année, et pas simplement à Noël, ou pas simplement un peu plus à Pâques, mais aussi en célébrant toute la vie de Jésus. Dans la scène que nous allons prendre tout à l'heure, nous ne nous rappelons pas simplement de Jésus par nos pensées, mais en faisant ce qu'il a fait, en prenant du pain, en le rompant, en buvant du vin. Il y avait deux mots que l'Église primitive a utilisés pour essayer de se souvenir des actes de Dieu dans le temps. Un mot grec, amnèse, qui vous parlait d'une mémoire active, en faisant des choses pour nous rappeler de Dieu et pas simplement en pensant. Mais également, ce mot parlait du passé, de tout ce que Dieu avait fait dans le passé, mais il y avait un autre mot, prolepse, qui amenait le futur de Dieu dans le présent. L'anticipation de ce que Dieu allait faire dans le futur, le fait que Jésus va revenir, que nous allons être avec lui aux noces de l'agneau. Et le dimanche, tous les dimanches, nous saisissons le passé, la mort, la résurrection de Jésus et tout ce qu'il a préparé, mais également l'avenir en déclarant le règne de Dieu. Pour les aider aussi dans l'Église primitive, il parlait du huitième jour. On parle de sept jours de la création. L'Église voulait penser à la nouvelle création parce que le huitième jour, on pourrait dire le premier jour de nouveau, Jésus est ressuscité. Sept, le chiffre sept était déjà le chiffre d'accomplissement, mais le chiffre huit, c'était le chiffre de la rédemption. Dieu est intervenu dans sa création et il nous a créés d'une nouvelle manière, en Jésus-Christ. Pentecôte, combien de jours? 50. Donc c'était 50 jours après Pâques. C'était la fête des semaines aussi, la Pentecôte, où les premiers grains de blé mûr de la moisson ont été présentés à Dieu. Et dans l'Église primitive, on célébrait la résurrection, pas simplement le jour de Pâques, le dimanche de Pâques, mais pendant ces 50 jours, une période qui comprenait la croix en allant à Jérusalem, qui comprenait la résurrection, également l'ascension et la Pentecôte. Et pendant cette période, au IVe siècle, c'est interdit de faire des choses comme jeûner ou de s'agenouiller, parce qu'on célébrait la résurrection et du fait que nous aussi, notre baptême et par notre foi en Jésus-Christ, nous étions aussi élevés et ressuscités avec lui. Mais revenons à cette première Pentecôte pour les disciples. Quelle période de 50 jours. Un parcours de montagnes russes, de l'entrée à Jérusalem, avec des rameaux, tout le monde disait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » pour quelques jours par la suite voir ce même Jésus abandonné, crucifié. La peur pour leur vie lorsque les disciples se trouvaient derrière des portes verrouillées, pour ensuite basculer à la résurrection et cette période de 40 jours avec Jésus, des apparitions à Jérusalem, en Galilée autour d'un petit déjeuner où encore une fois il avait fait un miracle de poisson, jusqu'au mont d'Olives, le mont des Olives et le départ de Jésus de manière spectaculaire au ciel. Avant son départ, il leur avait annoncé en Matthieu 28, plutôt que commandé en Matthieu 28, « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Mais comment comprendre alors qu'il est disparu quelques jours après? Comment allait-il être avec eux jusqu'à la fin du monde alors qu'il est parti? Ou encore cette promesse dans Acte 1, verset 8, que Luc a repris pour nous au début des Actes des Apôtres. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Et là, il ne parlait pas de notre côté de Genève. Parce qu'il y a un bus qui va au bout du monde, mais c'est toujours en Suisse. 10 jours après l'ascension, le ressuscité était-il encore parmi eux, celui qui était disparu tout d'un coup? L'ascension nous montre que ce Jésus ressuscité n'était pas lié ni par le temps, ni par l'espace. Et les conséquences pour ses disciples qui avaient peur, qui ne savaient pas ce qui les attendait avant la croix, c'est l'aube d'une nouvelle journée. Ils sont tous remplis par cet esprit de Dieu. Une expérience qui allait être répétée à plusieurs reprises, même dans le livre des Actes. Tout d'un coup, ces disciples qui avaient peur avaient le courage de se mettre sur la place publique pour parler de ce Jésus. Le miracle de parler en plusieurs langues pour que tout le monde comprenait. Les miracles de guérison dans la rue. Pierre cite le prophète Joël en montrant que comment les prophètes avaient annoncé d'avance la manifestation de la grâce de Dieu par son esprit. Pour Luc, c'était le signe de la fin des temps. Une autre fois, en Actes 4, 31, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsqu'Étienne était sur le point de se faire lapider dans le 7e chapitre, Luc a dit « Rempli du Saint-Esprit, Étienne leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. » Pierre, en Acte 10, parlait à Corneille, il a dit « Ce Jésus, Dieu l'a oint en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. » Souvent, à la Pentecôte, on parle de l'arrivée du Saint-Esprit ou la venue du Saint-Esprit, comme s'il s'est caché pendant longtemps. Et puis, tout d'un coup, comme Jésus est apparu dans l'an 0 de notre ère, ou parce qu'un jeune moine au 4e siècle s'est trompé un tout petit peu, on pense que c'était moins 4. Donc, le Saint-Esprit, est-ce qu'il est né en 29 ou en 33? Parce qu'on ne l'avait pas entendu parler de lui avant? Mais non. Ça nous donnerait un peu des soucis pour notre compréhension de la Trinité d'un Dieu qui est 3 fois saint, mais un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui apparemment est éternel. Déjà dans Genèse, dans le 2e verset de la Bible, nous lisons que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Nous lisons de certaines personnes que Dieu avait marquées pour un travail particulier. Bezalel était un tailleur de pierre et sculpteur de bois. Et en Exode 31, verset 3, on lit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence » et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens ont été remplis de l'Esprit, ils ont prophétisé. tel était le cas de Eldad et Médad en nombre 11, ou encore Balan en nombre 24, même Saül en 1 Samuel 10. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. Pourquoi est-il important pour nous aujourd'hui de marquer la Pentecôte? Parce que la Pentecôte, lorsque Dieu a répandu son esprit de manière visuelle dans l'Église, marque la présence continuelle de Jésus, le fait qu'il demeure avec nous. Mais encore, ce qui est plus merveilleux que la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, autour du camp, lorsqu'on voyait la colonne du feu, c'est que Jésus veut faire sa demeure en nous, ce qu'il fait par son esprit. Jésus avait parlé de l'Esprit en Jean 16 en disant « Il manifestera ma gloire, car il puisera de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » La Pentecôte n'est donc pas une occasion qui inaugure ou qui commence quelque chose, mais qui résume tout. De manière annuelle, elle termine la célébration de la Pâque. Elle donne une occasion de récapitulation. Qu'est-ce que ça veut dire ce grand mot ? Dans la musique, ça veut dire on revient à la même mélodie qui était là au début, pour terminer le morceau. Et rien ne récapitule plus que ce chapitre de Actes 22, où Pierre explique comment c'était l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Le Saint-Esprit est devenu l'agent par qui le Christ ressuscité est rendu présent à l'Église. Ce n'est pas le début de l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde, mais il est toujours actif dans la création. Il était actif aussi dans la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Qu'est-ce qu'avait dit l'ange à Marie ? L'Esprit Saint descendra sur toi, la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. Ou par rapport à Jean-Baptiste, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Ce même esprit que Jean-Baptiste avait vu au baptême de Jésus. Il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. C'est intéressant aussi ce que Jésus avait dit à Nicodème. Je te l'assure, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'Esprit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est nouveau pour la Pentecôte, ce n'est pas le début ou la venue de l'Esprit, mais c'est que ce même Esprit qui a œuvré dans le passé, maintenant constitue l'Église de Dieu. Parler du jour de la Pentecôte dans le culte chrétien ou dans la louange, c'est parler de l'Église en tant que communauté, en tant que corps. Cette Église qui était constituée par l'Esprit. Qu'est-ce que c'est l'Église? Ce n'est pas une organisation de bénévoles qui existe pour des raisons d'efficacité. Oui, ce sera plus simple si je reste chez moi, un frère ou une sœur pourrait venir et on fait la Sainte Cène ensemble, qui pourrait m'aider peut-être à mieux lire ma Bible. Mais ça sera difficile à organiser pour tout le monde, donc oui, c'est plus facile de le faire sous un seul toit. Et puis, moi, je ne chante pas super bien, donc le fait d'être avec des musiciens à l'Église, ça rend la louange plus facile aussi que d'être 4 ou 5 à la maison. Mais l'Église est volontaire, et donc les gens peuvent participer quand ils ont besoin, s'ils veulent en tirer quelque chose. Non, l'Église est une communauté appelée ensemble par l'Esprit du Ressuscité. Donc, participer à l'Église, ce n'est pas quelque chose que nous choisissons de faire, mais ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être des membres interdépendants du corps et non pas des individus séparés. La participation n'est pas quelque chose que nous faisons par choix personnel ni par besoin. La participation au corps de Christ fait partie intégrale de ce que c'est d'être un disciple de Jésus-Christ. Le ressuscité qui est présent à tout temps et en tout lieu, par son esprit, cherche à unir par l'action de l'esprit des choses qui ont été séparées incorrectement. L'Église est également un signe de l'avenir. Même de manière imparfaite, elle cherche à agir dans le monde présent par la justice et la grâce qui caractérisent le règne éternel de Dieu. Pourquoi donc marquer la Pentecôte? Parce que c'est le début de l'Église comment Dieu a répandu de manière nouvelle son esprit comme le signe de sa présence continue dans le monde. C'est également une bonne occasion pour nous de nous poser des questions sur l'esprit dans l'Église et dans ma vie personnelle. Jésus a dit « Il manifestera ma gloire ». Alors comment est-ce que sa gloire est manifestée en nous, dans notre vie d'Église ou dans ma vie? John m'avait dit que je pouvais aussi parler un tout petit peu de la louange, un sujet que je tiens à cœur, dont certains, vous le savez, certains d'entre vous m'avaient aidé il y a 4 ans lorsque j'ai fait un travail de doctorat là-dessus, en subissant des séminaires et en remplissant des questionnaires. Et je pense que votre communauté le prend au sérieux et c'est très bien. J'étais encouragé par tout ce qu'a fait Lydia ce matin en lisant la parole avec la musique et le contenu, et on était bien dirigé vers le pourquoi on était là. Ce n'est pas donc pour remplir un trou avant le message ou parce que cela fait du bien de chanter ensemble. La louange, oui, est vécue de multiples manières différentes selon le type de l'Église, selon la culture locale. Si on posait la question à 10 personnes différentes, qu'est-ce que c'est la louange? On aurait probablement, et j'espère, 10 réponses différentes. Pour l'adoration, pour la louange, il n'y a pas de formule. Ce n'est pas une formule d'aller de point A à point B en passant par tout ça comme si Dieu avait besoin que j'ai 10 sur 10 avant qu'il se présente. Il faut éviter des notions que la vraie louange est ceci ou la vraie louange est cela. Oui, le choix des chants est très important, mais la musique en elle-même ne constitue pas l'adoration. Il y a la musique au match de rugby. On chante bien ensemble. On sait pourquoi on est là. Ou pour un concert, ou pour un orchestre. La musique en elle-même suscite plein d'émotions différentes, surtout si c'est un chant que j'ai connu lorsque j'étais petit. On peut parler d'un style de musique qui est la musique de louange. Après tout, on a des CD de louange et sur le plan musical, on pourrait analyser un type assez répandu du chant de louange actuel. Mais c'est un style, ça va passer, il va avoir de nouveaux styles. Déjà, si on prend des chants de louange depuis 50 ans, j'ai plusieurs livres chez moi où des chants qu'on a chantés lorsque j'avais 18 ans, on ne les entend plus, ça passe. Pourquoi un style devrait-il chasser un autre comme la seule manière de faire la louange soi-disant correctement? Dicter un type de louange ou un style de musique, à mon avis, ne laisse pas la liberté à l'esprit de travailler où il veut et comment il veut. Je ne peux pas dire que la vieille dame au nord de l'Écosse, qui a 80 ans, qui joue de l'orgue à pédales, avec un petit troupeau d'une 20aine de personnes, ne peut pas louer Dieu parce qu'il n'y a ni guitare, ni batterie, ni les gens de j'aime, chants de j'aime, pardon. Et pourtant, ne me parle pas de la place de l'orgue dans l'histoire. Déjà refusé dans le XVIe siècle, pour ensuite, dans certains milieux, devenir l'instrument sacré. Mais attention, on pourrait passer avec un autre instrument aujourd'hui, dans d'autres milieux. La louange n'est pas ceci si on n'a pas cet instrument-là. Dire que Dieu ne va pas se manifester à moins qu'on ait chanté 4 chants de ce type ou d'un autre type ou des vieilles cantiques ne laisse pas la place à Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Dieu n'est-il pas déjà présent avant qu'on arrive? Dieu peut-il choisir de se manifester à moi à n'importe quel moment du culte et aussi chez moi? Et non pas simplement lorsque je suis émotionnellement engagé par la musique. Le style peut être résumé ainsi. La façon dont une communauté d'église exprime le contenu de leur culte est un résultat de son contexte particulier, la façon de faire des choses, autrement dit. Dans les discussions autour de la louange, et là il y a quelques semaines, j'enseigner un cours à Emmaüs là-dessus, ce que je fais tous les ans, et c'est toujours intéressant à voir les questions des futurs pasteurs et des personnes qui font des études là-bas. Dans les discussions autour de la louange, on parle de la planification, de l'organisation contre la spontanéité. Comme si on organise trop les choses, il n'y a plus de la spontanéité. On peut être aussi l'esclave à la spontanéité. Et puis, parce qu'on est église de type libre, on n'aime pas trop des structures. Et donc, ne me parle pas de ce mot liturgie, même si je ne comprends pas exactement ce que c'est. C'est simplement l'œuvre du peuple, la liturgie. C'est comment on fait des choses. Qu'est-ce qu'on met dedans, dans le culte. Donc, s'il n'y a pas de structure, peut-être si j'allais enregistrer la louange 4 dimanches de suite, et puis par la suite l'écouter, je trouverais ma structure naturelle. Plutôt que de poser des questions, est-ce qu'on a vraiment fait la bonne louange? Moi, j'aimerais poser ces questions-ci, ou quelques questions, et j'en ai des centaines. Y a-t-il un sens du temps dans la louange, du passé, du présent, du futur? Y a-t-il aussi des périodes de silence suffisantes pour écouter Dieu parler? Dieu est-il glorifié? L'adoration fait-elle fructifier de la vie de l'esprit de manière plus vraie dans la vie de ceux qui y participent? Les adorateurs vivent-ils dans une obéissance croissante comme conséquence de leur rencontre avec Dieu? Et puis pour nous qui sommes des musiciens, les adorateurs sont-ils priés à participer dans d'autres activités en dehors du chant? Comme la lecture ensemble, la prière, d'autres choses. Est-ce que sa gloire est manifestée dans notre milieu? Mais est-ce que la gloire de Jésus est également manifestée dans ma vie en tant que chrétien? Est-ce que mon témoignage est quelque chose qui appartient au passé, sans trop de signes de vie dans le présent? Parce que j'ai des soucis, des circonstances difficiles, et j'ai du mal à voir ou à surmonter ces circonstances. On stresse facilement, et souvent, même en tant que chrétien, même de longue date, on peut essayer de s'en sortir par notre propre force. Venir à Dieu uniquement comme vraiment dernier recours, même si au niveau cérébral, on sait qu'il prend soin de nous. Et puis, moi qui suis d'arrière-plan protestant, je n'ai ni besoin du pape, ni besoin de personne. L'indépendance règne. Moi, je viens d'un pays qui pourrait être appelé, c'était dans les infos depuis longtemps, Irlande du Nord, pour plusieurs raisons, malheureusement. Avec donc 50% protestants, 50% catholiques, plus ou moins maintenant, ou le Royaume-Uni, ou même les États-Unis, on aime bien l'indépendance. On n'est pas fort si on a besoin de demander de l'aide. Et puis, que penserait l'autre de moi si j'ai besoin de quelque chose? Alors que Jésus a dit, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Je suis celui. » Ou encore, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Que celui qui croit en moi boive, car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, a dit Jésus, dans Jean 7. Est-ce que je me laisse dépendre de l'Esprit? Ou dans le témoignage aux autres, Dieu a-t-il besoin de moi pour le défendre lorsque les gens parlent mal de lui? Est-ce qu'il peut travailler aussi dans le cœur d'autrui sans mon aide? Récemment, on a commencé un cours alpha chez un couple à Saint-Genis. Je suis dans l'église dans Crossroads à Saint-Genis, maintenant dans l'implantation depuis presque 2 ans. Et il y a quelques semaines, on a commencé un cours alpha dans un immeuble à Saint-Genis, des voisins donc des frères dans l'église. Et c'était ma première fois d'assister à plus. J'avais assisté à un ou deux cours, une ou deux soirées comme ça, mais jamais un cours en entier. Et je me suis rendu compte la première nuit que moi, je n'avais pas besoin de parler. Il y avait donc, on a regardé un DVD d'une quarantaine de minutes, donc avec, on va dire, une prédication, un discours sur la Bible. Et puis on a laissé les gens chez qui on était, tous les deux, qui viennent à l'église depuis 3 ou 4 semaines, on leur a laissé parler. Et moi, je suis rendu compte que Dieu, il travaille. Et il travaille tout seul. On n'a pas besoin que nous, on le défend. Ou qu'on défend la Bible. Après tout, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas se convertir nous-mêmes. Comment Dieu, ô sa gloire, la gloire de Jésus manifestée dans ma vie, est-ce que l'Esprit peut faire ce qu'il veut dans ma vie? Aussi dans mon intelligence. En quoi est Jésus glorifié? Je pense qu'il est glorifié lorsqu'il peut faire de nous ce qu'il a envie de faire. Lorsqu'on peut voir, en marchant avec lui, qu'il nous a amenés un peu plus loin avec lui. Lorsqu'on se rend compte de manière, tous les jours, tellement, comment on a tellement besoin de lui. Ce Dieu tout-puissant qui a tout préparé en envoyant Jésus à la croix à ma place. Ce Jésus qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui a répandu son esprit de manière nouvelle sur son Église, qui est avec moi aujourd'hui, qui est présent. Prions ensemble. Seigneur, si tu n'étais pas avec nous, nous avons gaspillé notre dimanche matin. Si ton esprit ne nous illumine pas ta parole pour qu'on puisse la comprendre, nous aurons beau à le lire. Mais merci Seigneur que tu es présent. Merci que tu es mort à notre place, que tu es ressuscité. Merci pour ta présence avec nous par ton Esprit Saint. Merci pour ce que tu fais dans notre cœur tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à te laisser, même en tant que chrétien, la place toujours à nous amener plus proche de toi, plus près de toi. Que d'autres puissent voir la réalité de toi dans notre vie et non pas simplement notre discours. Tu connais, Seigneur, les situations différentes dans lesquelles nous vivons. Tu connais le cœur de chacun. Je te prie pour ceux d'entre nous qui passons par des moments difficiles aujourd'hui, ces jours-ci, que nous puissions, Seigneur, savoir que c'est toi qui nous portes. Que ta présence est avec nous. Que ton Esprit Saint demeure en nous. Que nous puissions te faire confiance en toutes choses. Merci que tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans notre vie aujourd'hui et dans ces jours à venir et dans la vie aussi de ceux que nous côtoyons qui ne te connaissent pas encore. Merci que ce sont des futurs chrétiens parce que tu vas travailler dans leur cœur, tu vas les amener à toi. Aide-nous, Seigneur, te faire confiance, toi, le Dieu qui dépasse toute notre intelligence, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons te demander ou imaginer. Alléluia.
Merci, David, pour ce message qui nous rappelle le sens de la Pentecôte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce matin, l'heure tourne plus vite que d'habitude. On va quand même partager la scène ensemble. Je serai bref. Je vous invite juste à réfléchir à ce que représente la scène pour nous ce matin. Tout d'abord, c'est vrai que prendre la scène ensemble, ça nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, ce sont le centre du message de l'Évangile. L'acte accompli par Jésus-Christ lui-même qui nous permet de devenir enfants de Dieu, d'être réconciliés avec Dieu le Père. Le partage de la scène, c'est aussi un temps de communion. Un temps de communion, bien sûr, avec Jésus-Christ. Quand je participe au repas du Seigneur, je me rappelle les souffrances que Jésus a vécues à la croix pour moi. Mais c'est aussi un moment de communion entre nous, ses enfants. Notre communion, elle vient du fait que nous avons le même Père, le même Seigneur, le même Sauveur et aussi la même espérance. Prendre la scène, c'est aussi annoncer le prochain retour de Jésus-Christ. Annoncer son prochain retour à ceux qui nous voient vivre, dans le sens de témoin. Mais c'est aussi pour nous-mêmes une préparation à participer à ce magnifique repas que nous prendrons dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus a institué la scène avec ses disciples, il leur a dit « Je ne boirai plus désormais du fruit de ce vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le fruit sera nouveau, le raisin sera nouveau, donc le fruit sera nouveau, mais ce qui sera aussi nouveau, c'est le fait que les réalités éternelles que représente la scène et qui sont le pardon, l'union à Christ, l'amour et la vie auront atteint la perfection. Elles auront atteint la perfection parce que, tout simplement, elles seront pleinement réalisées. Et ça, c'est magnifique. Alors, je vous invite à vivre ce partage de la scène en étant conscient que ce repas symbolique n'est qu'un avant-goût de ce qui nous est réservé. J'invite Pierrick et Nathan à s'approcher, puis comme l'heure a beaucoup tourné ce matin très vite, je propose que deux autres personnes viennent, comme ça on distribue en même temps le pain et le jus de raisin, puis on gagne quelques minutes. Alors si deux personnes veulent aussi s'avancer pour servir à ce partage.
Loué sois-tu Seigneur, parce que tu nous aimes et tu n'as pas eu peur de faire couler ton sang, de donner ta vie pour nous. Seigneur, loué sois-tu. Merci pour ce sang qui nous lave de notre péché et qui nous permet d'être enfants de Dieu. Loué sois-tu, Seigneur. Amen.
Je vous invite à partager les annonces. Tout d'abord, le programme de la semaine. Mardi, c'est le soir des cellules. Alors, pour le côté sud du Pays de Gex, Collonges, Farges, Perron, ce sera chez Pierre et Déborah. Pour Prefsin, toujours chez Emmanuel et Rebecca. Et pour Gex, c'est donc chez Anne-Lise. Vendredi 13, il y a donc un concert ici, une voix, 10 doigts et un pinceau. La voix, c'est Théo Z, que l'on connaît peut-être un petit peu, certains plus que d'autres évidemment. C'est donc organisé par Virage, c'est à 20h30 et ça se tient ici dans cette salle. C'est donc à la fois des chants, du piano, 10 doigts, et puis de l'aquarelle, un pinceau. Ensuite, samedi prochain, deuxième matinée de travaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les haies ont été taillées. Merci Charlie, qui a fait déjà plus de la moitié du boulot quand on est arrivé hier matin. Grâce à lui, on a pu terminer. C'est vrai qu'hier, on n'était pas très nombreux. C'est un week-end prolongé. Les jeunes ne sont pas là. Ils sont en week-end groupe de jeunes. Au programme pour la semaine prochaine, finir les nettoyages, les vitres de la salle, plein de petites choses à droite à gauche, et puis attaquer les lasures à entretenir. Alors, si vous avez du temps, si vous n'en avez pas, prenez-en, mais venez partager ces moments, c'est aussi précieux de passer ces moments ensemble et de faire des choses ensemble pour le maintien du bâtiment en bon état. Samedi, le groupe de jeunes, dimanche prochain, thé café à 9h30. Profitons aussi de ces moments pour partager, pour créer des liens entre nous, pour les renforcer. Le culte à 10h30. La semaine d'après, le mardi 17, donc il y aura l'étude biblique pour les aînés. Le 21, il y aura donc le mariage de Sophie et Grégory. Donc il va se passer à Crossroad et le vin d'honneur sera fait ici. Sinon, on a reçu les remerciements de Sabrina et Cyril par une petite carte pour la naissance de Noam qui est né en janvier. Alors je mettrai la petite carte au fond. Sinon, continuons de prier pour la famille Morand. Vous savez qu'il y a une chaîne de prière qui est active. Elle continue. Si des personnes veulent se joindre à cette chaîne de prière, faites-le savoir. On peut sans problème vous rajouter. C'est important de se soutenir aussi pendant ces moments. Continuons de penser à Mike aussi, qui est bien rentré, qui a repris son boulot. Remettons-le aussi toujours dans nos prières. Une autre petite annonce toute pratique. Jean-Daniel et Pascaline Gloser vont revenir fin juin, pour environ un mois et demi, deux mois. Hein. Un gros mois, ouais. Ils auront besoin d'une voiture pour se déplacer par ici, puis un petit peu plus loin. Si quelqu'un a une voiture à disposition qui peut leur prêter, ben c'est le bienvenu. Merci d'y réfléchir. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vais vous lire encore deux versets dans Éphésiens. Éphésiens 3, les versets 20 à 21. À celui qui peut faire par la puissance qui agite en nous, cette puissance qui agite en nous, c'est le Saint-Esprit. À celui qui peut faire par la puissance qui agite en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.